La réalisation de l'esprit montée par Alain Ring.
Bonsoir, actualité politique en RDC. À l'issue de leur rencontre avec l'informateur, plusieurs acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ont proposé un type de gouvernement. Pour les uns, un gouvernement de coalition, pour les autres, un gouvernement d'union nationale. Comment analyser ces différentes propositions? Nos invités sont professeur Sambo Colombé, député national de l'opposition et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise UNC. Professeur Bokolombe, bonsoir.
Bonsoir.
Antoine Dekouillet, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Honorable Dekouillet, bonsoir.
Bonsoir Alain Hirong.
Professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Butembo en RDC. Professeur Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions comme d'habitude. Pépé Lissoungi de Kisangani en province orientale. Si le pays a été mal géré, c'est suite à la mise sur pied d'un gouvernement de coalition depuis 2006. Je pense qu'aujourd'hui, soutenir la mise en place du gouvernement de coalition, c'est ne pas avoir le souci du peuple. Expérimentons d'abord le gouvernement de large union nationale. Peut-être que cela peut amener le changement sur tous les plans dans ce pays. Jeannot Katembo Kivono de Goma en Nord-Kivu, quels sont les facteurs qui seraient à la base de la formation d'un gouvernement d'union nationale? Est-ce pour montrer la générosité de la majorité ou un moyen de fragiliser l'opposition pourtant appelée à jouer un rôle important dans la reconstruction de la RDC? Je pense que l'opposition devrait revoir sa position et non pas chercher des postes au sein du gouvernement. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocafé.net.
Quatre délégations des partis de l'opposition ont été reçues hier par l'informateur Charlemont Dosimba. L'MLC conduit par son secrétaire général Thomas Louaka, l'UNC conduite par son président Vital Kamerhe, le RCD-KML piloté par son président Boussanya Mouiti et l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD conduite par son président José Makila. Si pour le MLC et l'UNC, leurs positions convergent vers un dialogue entre l'opposition et le pouvoir pour décrypter le climat politique actuel. Par contre, le RCD-KML et l'ATD se disent prêts à apporter leur pierre à l'édifice national. Vital Kamerhe, vous êtes président de l'UNC. Sur quoi devrait déboucher le dialogue que vous soutenez?
Ça doit aboutir à des institutions avec une légitimité renforcée, retrouvée, la cohésion nationale rétablie, mais aussi avec une suite de bonne gouvernance de notre pays et de respect des droits humains, avec un calendrier bien défini pour le reste du processus électoral.
En d'autres termes, un gouvernement de large union?
Non, il n'est même pas ce genre de terme. Moi, je voudrais rester dans la Constitution. Quand le président actionne l'article 78, alinéa B, il entre lui-même en plein gouvernement de coalition. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ouvrez la Constitution, c'est écrit. Quand la majorité n'est pas clairement définie, au sein de l'Assemblée nationale, le président nomme un informateur pour une nouvelle majorité en vue d'une coalition.
Propos recueillis par Jacques-Yves Molima. De son côté, le président national de l'INAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, souhaite que le futur formateur tienne compte de toutes les tendances politiques pour la mise en place du gouvernement. Déclaration faite à la presse ce lundi à Lubumbashi après son entrevue avec l'informateur Charlemont Dosimba. Gabriel Kyungu Wakumanza, vous êtes président de l'INAFEC. Quel type de gouvernement proposez-vous?
Je dis tout de suite, un gouvernement d'ouverture, contrairement à ce qui parle de l'âge union nationale. L'âge union nationale, c'est la sélection que le peuple vient de faire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous voulons tout simplement que le peuple se retrouve dans l'équipe qui sera mise en place. J'ai insisté, un gouvernement qui va se baser sur deux thèmes. L'expertise et l'expérience. Et un chef du gouvernement qui est pour nous d'avance, quand on les voit, il y aura moins de conflits qu'avant. Le peuple en a marre de conflits.
Voilà, propos recueillis par Colin Djuma Mousson pour professeur Sambo Colombé. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, gouvernement de coalition, gouvernement de large union nationale, gouvernement d'ouverture, gouvernement de salut public pour les uns. Comment vous analysez toutes ces propositions?
Voilà, comme de coutume, en RDC, on entre là dans des querelles byzantines autour du secte des anges. Le président Victor Kamere vient de le dire, il est statut de l'État de désigner un informateur cadre avec la Constitution. Et elle s'inscrit dans une hypothèse bien déterminée, celle envisagée par l'article 2, disons l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution, qui parle de l'hypothèse où il n'existe pas de majorité. Et là, nous retombons dans ce que nous disons depuis quelque temps, que le double scrutin de novembre 2011 n'a pas permis de sortir des institutions légitimes. Nous avons un chef de l'État qui a été déclaré élu et proclamé par la Cour suprême de justice comme président de la République, mais qui n'a pas la légitimité voulue. C'est-à-dire, c'est une institution à laquelle la majorité socio-politique ne s'identifie pas facilement, n'est-ce pas? Et d'autre part, nous avons un président qui s'est autoproclamé, président de la République, qui n'a pas l'impérium voulu pour exercer ses prérogatives. Vous l'avez entendu, le président Tshisekedi le dire. Et les deux se trouvent comme dans une situation de convergence parallèle, comme l'a dit Mgr Monsengo lors de la conférence nationale. D'un côté, vous avez le président Kabila qui méconnaît sa majorité, n'est-ce pas, et qui va devenir un informateur pour identifier une majorité, n'est-ce pas, d'où sortira un gouvernement de coalition. Et d'autre part, vous avez le président Tshisekedi qui était proclamé président de la République et qui a annulé les législatives. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de convergence parallèle qui nécessite des passerelles. Et en fait, des passerelles, il s'agit de dialoguer. De dialoguer pour rapprocher les vues, pour harmoniser les vues et permettre aux institutions de fonctionner. Je ne suis pas dans ces débats-là, gouvernement de coalition, gouvernement d'union, gouvernement de large union nationale, gouvernement d'ouverture. Je ne suis pas dans ces débats-là, puisque la Constitution parle d'un gouvernement de coalition. Voilà. C'est mon approche des choses. Je ne vais pas entrer dans ces détails, la terminologie.
Alors, professeur, puisque l'émission est également pédagogique, il y a Kaviti Jean de Boutembonorti, vous, qui dit « Quelle différence y a-t-il entre un gouvernement de coalition et un gouvernement d'union nationale ?»
Bon, voilà. Dans un gouvernement de coalition, quand est-ce qu'il y a un gouvernement de coalition ? C'est lorsqu'il n'y a pas de majorité. Lorsqu'il n'y a pas de majorité, à l'issue du scrutin législatif, en principe, devrait sortir une majorité. Nous n'avons aucun parti politique qui ait réalisé plus de 250 élus. N'est-ce pas? Dans un tel contexte, et avec tout ce qu'il y a eu comme fraude, on a affaire à une absence de majorité qui nécessite des consultations pour en dégager une, et c'est de cette majorité que pourra sortir un gouvernement. Gouvernement de la Union nationale, c'est un gouvernement où l'on prend des forces politiques en période de crise, n'est-ce pas, pour stabiliser la situation, pour stabiliser, donc mettre les institutions en route. Alors, dans mon entendement, ça n'obéit pas à des critères bien précis. C'est pour résoudre une situation de crise.
Et donc, pour vous, professeur, le dialogue reste le préalable à la formation de ce gouvernement de coalition.
Mais sinon, comment composer un gouvernement de coalition alors qu'on ne se met pas d'accord sur un minimum de programmes, par exemple, du gouvernement? Il y a bien des causes. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un parler des correctifs au cadre macro-politique. Il s'agit de rectificatifs institutionnels, puisque les élections n'ont pas permis de sortir des institutions incontestables, des institutions légitimes et incontestables. Il faut approcher les yeux, il faut corriger, il faut apporter des correctifs et résoudre les situations. Voilà.
Prenons cette réaction qui nous vient de Lubumbashi Katanga pour vous, professeur Bokolombe.
Patrick Mitonga, depuis la province du Katanga à Lubumbashi, je pense qu'un gouvernement de coalition ne peut rien faire de bien, à part un partage de pouvoir, comme l'a fait la formule 1 plus 4, qui ne pensait qu'aux intérêts des composantes et non les intérêts de la population. Pour moi, le mieux est que l'opposition reste à sa place et que la majorité forme seule le gouvernement, car une opposition dans le gouvernement n'est plus une réelle opposition.
Réaction, professeur.
Oui, effectivement, en temps normal, en circonstance normale, l'idéal aurait été que l'opposition fasse l'opposition et que la majorité sorte un gouvernement. Mais c'est que nous n'avons pas une majorité légitime incontestable. Il y a eu fraude électorale massive et on ne peut pas se comporter comme si de rien n'était et reconnaître l'existence d'une majorité. Il n'existe pas. Et le président de la République, lorsqu'il prend l'initiative de nommer un informateur, il reconnaît de ce fait que de ces élections n'est pas sorti une majorité crédible et d'où pourrait sortir un gouvernement responsable.
Et l'UNC serait-elle prête à participer à ce gouvernement de coalition?
Mais, écoutez, ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches, je ne sais pas vous dire directement la nature du gouvernement. C'est ça qui nous préoccupe dans un premier temps. Ce n'est pas question d'entrer, nous, dans tous les cas, il n'est pas question d'entrer dans un gouvernement de la majorité présidentielle. Voilà.
Honorable François Nzekouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Vous avez suivi l'honorable Tambo Kolombe. Comment vous analysez toutes ces propositions?
Oui, merci Alain Roux de m'avoir encore associé à ce débat pour la nation. Je crois qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de nos concitoyens et qu'il faut vite éclairer. Quand on lit l'alinéa 2 de l'article 118 en disant « si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition », cela ne veut pas dire qu'au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas de majorité parlementaire. Ça veut dire tout simplement, comme le professeur Tambo Kolombe l'a dit, qu'il n'y a pas un seul parti au Congo qui a eu 250 députés à l'Assemblée pour seul faire une majorité. Et c'est ce qui donne effectivement droit d'avoir une coalition. La coalition ne veut pas nécessairement dire que les chefs de l'État va aller en dehors de ce que nous avons appelé majorité présidentielle. Parce que la majorité présidentielle, je dois le souligner, comprend des partis qui ont eu des élus et des partis qui n'en ont pas eu. Donc, en réunissant les députés, membres de la majorité présidentielle, qui se retrouvent actuellement au Parlement, il est possible d'avoir une majorité parlementaire. Et donc, quand on parle d'une coalition, cela ne veut pas dire qu'on va aller nécessairement au-delà de cette majorité présidentielle pour aller embrasser l'opposition. Par contre, les consultations qui se font par l'informateur, qui vont jusqu'au niveau de l'opposition, c'est dans le sens de vouloir bien faire, c'est-à-dire tenir compte de leurs préoccupations, parce qu'effectivement, il y a des questions qui exigeront dialogue. C'est la question de savoir comment nous allons organiser les élections provinciales, municipales et locales. Ça exige absolument que nous puissions nous asseoir et en parler. Parce que les irrégularités et fraudes décriées ont touché tous les camps. Ce n'est pas simplement l'opposition qui en a été victime, et plusieurs cadres de la majorité présidentielle ont été aussi victimes de ces irrégularités et de ces fraudes de la part des membres de l'opposition. Ce qu'on ne dit pas souvent. Les fraudes occasionnées au Kassai ont concerné ou ont profité davantage les élus de l'opposition plutôt que ceux de la majorité. Donc, cette question-là, nous nous sommes mis d'accord, ou nous sommes d'accord tous, qu'il faille effectivement améliorer la façon dont la CENI va organiser la suite des élections. Au-delà de cela, nous considérons qu'il y a une volonté manifeste du chef de l'État d'avoir une ouverture. De par son discours d'investiture, qui dit qu'il est disposé à travailler avec tous les Congolais qui veulent bien le développement du Congo, peu importe de quel bord ils peuvent venir. Et donc,
Cette ouverture, c'est ce qui donne lieu à ce que nous, nous voulons appeler, bien évidemment, un gouvernement d'ouverture qui prendrait les expertises au-delà de la majorité quand il y en a. Et donc, quand nos amis parlent d'une coalition, ce n'est pas nécessairement le gouvernement de coalition selon l'entendement commun des Congolais qui voudraient voir un gouvernement où on se retrouverait avec les partis tant de la majorité que de l'opposition pris indistinctement, comme si on doit effectivement nous retrouver dans une situation où il n'y a pas un camp qui puisse avoir une majorité. Donc, cela doit être, à mon avis, dit pour que l'on se comprenne très bien. La majorité présidentielle pourra dégager une majorité parlementaire seule. Et si la majorité présidentielle veut aller au-delà, c'est tout simplement par envie de pouvoir tenir compte des compétences qui peuvent se retrouver dans l'opposition. Et nous ne serons pas les premiers à l'avoir fait. En France, vous vous rappelez que Sarkozy a pris un ministre des Affaires étrangères venant de l'opposition. Et donc, cela peut se faire dans certaines circonstances pour simplement une question d'ouverture d'esprit, mais pas une obligation. Le chef d'État n'est pas obligé de le faire comme s'il n'avait pas d'autre choix.
Alors, honorable Nzekouye, pour l'opposition, vous avez suivi le professeur Sambo Kolombe, il y a des choses qu'il faudrait harmoniser compte tenu de la manière dont se sont déroulées les élections, il y aurait crise, et dans ce contexte, quel est le type de gouvernement qui convient au contexte congolais?
Oui, moi je crois que les problèmes ne se posent pas en termes de gouvernement. Les problèmes se posent en termes de ce qui va advenir dans les restes du processus électoral. Parce qu'en Afrique, il n'y a jamais de gouvernement ou des élections incontestables, encore moins incontestées. Dans tous les pays d'Afrique et même du monde, à l'issue des élections, nous venons de vivre les élections en Russie, où on a même mis des caméras dans les bureaux de vote. Mais aujourd'hui, on conteste ces élections-là. Donc c'est des natures de perdants de toujours contester une élection. Vous vous rappellerez aussi, parce que les gens ont une mémoire courte, qu'à l'issue des élections de 2006, il y a eu des contestations, il y a eu même des tirs dans la ville de Kinshasa, il y a eu mort d'hommes. Ce que nous n'avons heureusement pas vécu après ces élections. Donc nous disons qu'il est vrai que les élections que nous avons connues ont été entachées d'irrégularités, et ces irrégularités n'ont pas profité qu'à un seul camp, ou encore n'ont pas préjudicé un seul camp. Parce que, comme je vous dis, les plaintes, quand on les voit au niveau de la Cour suprême de justice, opposent malheureusement la plupart des fois les élus de la majorité entre eux. Et parfois, bien évidemment, les élus de l'opposition entre eux. Donc, c'est une situation irrégulière que nous déplorons tous, et nous estimons que nous devons résoudre l'avenir du pays par rapport à la suite du processus électoral. Les contestations aujourd'hui qui existent sont en train de traiter par la Cour suprême de justice. Et aujourd'hui, comme hier, vous vous rappellerez qu'en 2006, il y a eu des députés qui ont siégé provisoirement à l'Assemblée nationale et après ont été éjectés. C'est le cas, par exemple, de l'ancien président du bureau provisoire, Moïndouba, qui était déclaré élu par la CI et qui, par la Cour suprême de justice, a été éjecté. Donc, nous espérons que ceux qui ont été mal élus et qui siègent avec nous aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale pourront être éjectés pour que les vrais élus reviennent au niveau du Parlement. C'est une façon de régler ces irrégularités que nous avons déplorées tant par l'opposition que nous au niveau de la majorité.
Merci, honorable. Je pense qu'en parlant de l'ancien président, vous voulez parler de l'honorable Mbeza Ntobi.
Mbeza Ntobi, voilà.
Merci. Oui. Professeur Pierre Virgence, vous avez suivi les honorables Nkekouye et Sambo Kolombe. Quelle est votre analyse à ce niveau?
D'abord, c'est intéressant de revenir sur les questions des auditeurs. Vous posez la question de la différence entre un gouvernement de coalition et un gouvernement d'union nationale. On peut quand même rappeler un gouvernement d'union nationale, c'est quand la nation est en danger, le fait que l'ensemble des forces politiques se regroupent dans un gouvernement. Et donc, ça a été le cas dans les pays européens quand il y a eu, par exemple, des guerres. Ce serait le cas actuellement en République démocratique du Congo, par exemple, l'UDPS faisait partie d'un gouvernement. Mais cette hypothèse-là n'est envisageable pour personne, et donc personne n'envisage en réalité un gouvernement d'union nationale en RDC pour le moment. Donc ce dont il s'agit pour le moment, c'est effectivement d'un gouvernement de coalition. Qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement de coalition? Un gouvernement où plusieurs partis se mettent ensemble pour faire un gouvernement. Le gouvernement de coalition de 2006 à 2011 regroupait des forces de l'ANP et des forces du PALU et d'autres partis qui ont permis de faire une majorité parlementaire. Et donc cette coalition-là a gouverné le Congo. Alors, on a tiré des conclusions, on a entendu certains auditeurs qui tiraient des conclusions sur l'efficacité du gouvernement de coalition. Alors, on peut aussi se dire que si ce gouvernement de Mousito, dans un deuxième temps celui de Mousito, a fonctionné de cette manière-là, ce n'est peut-être pas les défauts qu'il avait ou les qualités qu'il avait n'étaient peut-être pas liés au fait qu'il était un gouvernement de coalition. C'était un gouvernement, effectivement, dans une situation difficile. On sait que la situation économique, financière, militaire, sécuritaire du Congo est difficile. Et ce n'était pas simplement un gouvernement de coalition qui allait ni nécessairement aggraver les choses, ni nécessairement améliorer les choses. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, effectivement, la formation d'un gouvernement de coalition ne dépend pas de, pour revenir dans le débat maintenant que vos deux intervenants ont évoqué, ça ne dépend pas de la qualité de l'élu. Donc, certains élus sont considérés comme mal élus, certains considèrent qu'il y a une fraude massive, mais ce n'est pas ça qui est mis en cause. On fait un gouvernement de coalition à partir de sièges qui sont effectivement attribués à l'Assemblée nationale, et il s'agit bien ici, comme on l'a rappelé, d'avoir une majorité, c'est-à-dire plus que 250 sièges en faveur d'un gouvernement, peu importe que ce soit dans un seul parti ou dans plusieurs partis, et peu importe que les gens qui aient été élus soient considérés par les autres comme bien élus ou mal élus. Il suffit d'avoir 250 sièges pour pouvoir former un gouvernement.
Alors, professeur, en parlant du gouvernement du national, vous dites que c'est lorsque la nation est en danger, l'ensemble des forces politiques se regroupent. Mais, professeur, il y a l'opposition qui estime qu'il y a crise, qu'il y a des choses qui devraient être harmonisées. La nation n'est-elle pas en danger sous une autre forme?
Moi, je pense qu'effectivement, le pays vit des circonstances très difficiles. Le pays traverse une situation économique qui est en difficulté. Mais je dirais, si on regarde réellement les paramètres économiques, mais aussi sécuritaires au Congo, on voit que la situation maintenant est moins grave qu'en 2003. Elle est même, d'ailleurs, probablement moins grave qu'en 2006. Donc, on peut se dire que c'est vrai que le pays traverse des circonstances difficiles, mais on n'est pas dans une situation de guerre intense, et on n'a pas l'impression, effectivement, que les acteurs politiques congolais se disent que la nation est en danger, nous devons nous regrouper. Parce que ce sont bien les acteurs politiques qui doivent décider ça. Ce n'est pas l'observateur sociologue dans mon cas, ou l'observateur extérieur, ce sont l'ensemble des acteurs politiques qui, à mon avis, doivent se dire qu'il faut se mettre ensemble parce que ce qui arrive est trop grave. Tant que des groupes importants continuent à dire « ce pays va mal, mais nous ne participerons pas en aucun cas à la construction d'une solution politique ensemble », évidemment, on ne peut pas parler d'union nationale.
Professeur,
ça c'est le premier élément.
Alors, professeur, il y a Xavier Thierry à Butembo-Nord-Kivu qui dit « Après plus de 50 ans d'indépendance, le peuple congolais n'a plus besoin ni d'un gouvernement issu de la majorité parlementaire, ni celui de l'Union nationale, mais plutôt d'un gouvernement qui aura comme priorité la restauration de la paix et de la sécurité sur tout le territoire national, la lutte contre les détournements des deniers publics, l'amélioration des conditions de vie de la population et la lutte contre l'impunité, plus question d'un gouvernement de discours, mais plutôt des actions concrètes. Professeur, avez-vous vraiment l'impression que ce débat gouvernement d'union nationale, de salut public, de ceci, cela, est-ce que ce débat intéresse le Congolais moyen?
Non, bien entendu, ça c'est, comme on vient de le dire, hein, c'est une discussion byzantine. Hein. Je pense que l'intervention qui a été faite des fois est juste. c'est une discussion byzantine. Le Congolais moyen, l'électeur, le contribuable congolais, j'espère une amélioration concrète de sa situation, et les différents points qui viennent d'être évoqués par votre auditeur sont intéressants, à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan judiciaire, sur le plan policier. On espère effectivement que la situation va s'améliorer. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même, pour améliorer cette situation, un gouvernement qui gère, un gouvernement qui obtient la majorité, c'est-à-dire la confiance de au moins 250 parlementaires. Et donc, je dirais, il est vrai que sur le contenu du gouvernement, là, je pense que la plupart des Congolais vont se retrouver d'accord, derrière les grandes lignes qui viennent d'être évoquées. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils seraient tous d'accord dès qu'on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne politique sécuritaire? Qu'est-ce que c'est une politique qui fonctionne efficacement? Je ne suis pas sûr que dans les détails, tout le monde sera d'accord. Mais sur les grandes lignes, tout le monde sera d'accord. Et effectivement, il faut former un gouvernement qui va agir réellement. Parce que maintenant, les hommes politiques congolais vont commencer à prendre conscience du fait que ceux qui n'ont pas été réélus lors des élections législatives de 2011, c'est probablement, effectivement, des gens qui ont été repérés par la population comme des gens qui allaient se prélasser à Kinshasa au lieu de s'occuper des intérêts de leur région d'origine, des gens qui les avaient élus, et au lieu de tenir compte de ces problèmes et de les poser à Kinshasa, ils se sont amusés pendant 5 ans. C'est en tout cas le jugement qu'une partie de la population a fait sur ces élus-là. Et ils doivent bien prendre conscience des nouveaux élus, puisqu'ils veulent être réélus en 2016, ils doivent amener des résultats, parce que la population jugera encore plus sévèrement en 2016 qu'en 2011 ceux qui n'auront pas été des acteurs suffisamment efficients, suffisamment efficaces, ce serait déjà bien, pour diriger la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Pierre Virgence. Plusieurs voix se font entendre depuis les élections du 28 novembre dernier pour réclamer la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce qu'un tel gouvernement pourrait apporter au pays en ce moment? En tout cas, les avis sont partagés à la majorité et à l'opposition. On est loin de l'unanimité, même du côté des analystes politiques ou des organisations citoyennes. Les prises de position divergent. Pour le professeur Ngoma Binda, analyste politique au cadre du PPPD, parti de la majorité, l'idée d'un gouvernement d'union nationale ne répond à aucun principe démocratique. Cependant, il n'exclut pas la possibilité d'un gouvernement d'ouverture avec l'inclusion de quelques opposants. On l'écoute au téléphone de Michel Kikindangoy.
Je crois qu'il faudrait, comme l'a dit le président de la République lui-même, ouvrir le gouvernement ou quelques institutions donc du pouvoir à l'opposition en incluant une ou deux personnes ou trois, comme on le voudrait, mais pas se mettre à former très 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 difficilement, et c'est une spirale d'ailleurs pas, un gouvernement d'union nationale. Pendant cette période, il n'y a ni légitimité contestée véritablement en profondeur, ni crise véritable. Ça, c'est des mécontentements, des désaffections, etc. Et qui, d'ailleurs, vous le constaterez, sont en train d'être surmontés par les contradictions internes qui se trouvent dans un camp ou dans un autre.
Pour sa part, le président de l'ONG Asabo refuse cette opposition. Maître Jean-Claude Katende pense qu'un gouvernement d'union nationale recréerait la cohésion nationale et bénéficierait du soutien de tous. Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme est joint par Paul Félicien Mangana.
Nous pensons que pour recréer la cohésion nationale et la concorde nationale, il est important qu'on mette un gouvernement en place qui reprendrait les membres de l'opposition, de la majorité, mais aussi de la société civile, afin de faire en sorte que ce gouvernement ait la conscience de toute la population pour lui permettre de travailler et de faire face aux défis qui attendent notre pays. Je pense que la démocratie a été tuée depuis les élections de novembre 2011, dans la mesure où ces élections ont été caractérisées par la fraude, par la corruption et beaucoup des irrégularités, en sorte qu'aujourd'hui, on ne sait pas établir réellement qui avait gagné les élections de novembre 2011. Au lieu de reprendre les élections, il faut que les différentes parties prenantes se rencontrent, discutent et mettent en place un gouvernement qui puisse reprendre les personnalités des uns et d'autres.
Professeur Bokolombe, je vous ai vu aussi à la tête à certains moments. Vous avez suivi également le professeur d'urgence et l'honorable Ndekouye. Comment vous réagissez?
En fait, ce que je disais par rapport à l'analyse du professeur Pierre Vergence, si le problème en RSC s'est posé en termes de majorité de 250, le chef de l'État n'aurait pas été un informateur. Puisque virtuellement, la majorité présidentielle peut revendiquer une majorité de 341 députés.
Virtuellement.
On ne sait pas parler en termes de réalité, puisqu'on sait comment des députés ont été élus. Lorsque le collègue François Nzikoui estime que des fraudes ont été relevées des parts et d'autres, je doute, dans la mesure où on sait, on peut se représenter ici dans le contexte congolais, l'autorité qui avait pouvoir sur la CENI. En tout cas, personne d'opposition ne contrôlait la CENI. Ça, on peut se le dire. Il y a un fait. Le chef de l'État a constaté. Il a tiré toutes les conséquences de ces déclarations, puisqu'il a reconnu qu'il y avait des irrégularités, des erreurs, et des erreurs d'une ampleur assez importante, qui ont altéré les résultats du scrutin, du double scrutin de novembre. Il en a tiré toutes les conséquences. Il estime qu'il ne peut pas, gouverner légitimement avec la majorité virtuelle qui est actuellement au Parlement. Et il veut associer les autres forces politiques. Sauf que dans sa démarche, il n'intègre pas la dimension dialogue. Il voudrait comment intégrer les autres forces politiques dans une dynamique d'une majorité présidentielle. Alors là, il n'avait qu'à se contenter de sa majorité virtuelle et composer son gouvernement. Puisque, entre nous, je ne vois pas ces forces d'opposition sérieuses et significatives qui accepteraient d'entrer dans une majorité, dans un gouvernement des majorités présidentielles. Lorsque nous parlons des coalitions, si cette coalition ne pouvait concerner, comme le dit le collègue François Nzikoui, que les composantes de la majorité présidentielle, le chef de l'État, n'auraient pas étendu les consultations de l'informateur au poste de l'opposition.
Gouvernement d'Union nationale recule pour la démocratie, mais utile pour recréer la cohésion nationale. Comment vous interprétez ça?
Oui, c'est une approche, c'est une lecture des choses. Recule pour la démocratie. Mais quand est-ce que se pose cette nécessité de mettre en place une gouvernement d'Union nationale? Le professeur Pierre Vergès venait de vous le dire. C'est en temps de crise pour recréer la cohésion. Il n'y a pas de critères particuliers. C'est lorsqu'il y a crise et lorsqu'il y a nécessité de recréer la cohésion nationale pour permettre aux institutions de fonctionner. Il y va de la survie de la République. Lorsqu'il y va de la survie de la République, on fait appel à toutes les forces. Bien sûr, il y a un tribut à payer. Il y a la faiblesse, il y a parfois la complaisance dans le fonctionnement de ces institutions, puisque tout le monde se retourne, tout le monde veut contenter tout le monde. Voilà.
Et à ce moment-là, on tomberait un peu dans le schéma 1 plus 4.
Ben moi, je ne pense pas que dans le schéma 1 plus 4, c'est l'une des périodes où la République a fonctionné comme c'est rêvé. Ça, on doit se le dire. Il n'est pas dit que nécessairement, lorsqu'on est dans un schéma comme celui d'un plus 4, rien ne marche. Tout est question de la confiance, de la responsabilité des acteurs aussi, de l'expertise et de l'expérience aussi.
Honorable Nzikoui, le schéma 1 plus 4, qui est la période où le pays a été le mieux géré, il serait souhaitable.
Comparativement. Au dernier mandat de 5 ans, caractérisé par l'inertie, l'immobilisme.
Voilà, donc le gouvernement, à comprendre, c'est le schéma souhaitable.
C'est le point de vue du collègue Sambo Colombe, que je ne partage pas clairement, parce que quand on fait le bilan des actions du gouvernement 1 plus 4 et les bilans de l'action du gouvernement élu, le ministre en 2011, il n'y a pas
de coalition AMP,
il n'y a pas de commune des gens. Mais je ne veux pas m'attarder sur cette question. Je crois que nous devons clore un débat. C'est lui récurrent de l'opposition qui donne l'impression que la CNI a été une structure dirigée exclusivement par la majorité présidentielle. C'est faux. Il y avait 4 membres de la majorité et 3 membres de l'opposition. Et ça, c'est, à mon avis, j'étais de l'opprobre sur des cadres dignes de la CENI, comme Jacques Joly, qui est un homme compétent, non influençable. Donc, je crois que l'opposition est en train de jeter de l'opprobre sur ses propres fils.
N'en déplaise à certains. Alors, on aurait fermé rapidement ce débat-là.
Oui. Et donc, oui, nous revenons au vrai débat. Moi, je crois personnellement. D'abord, quand on dit que si les chefs d'État désignaient un informateur, c'est parce qu'il n'y avait pas une majorité et qu'on va nécessairement aller vers l'opposition. Ce n'est pas vrai. En 2006, si je m'abuse, Guizem a été nommé d'abord comme informateur. Et puis, il est formateur du gouvernement. Et il a formé quel gouvernement? C'est un gouvernement qui a été une alliance AMP, comme tu l'as dit, Palou, Idemo, qui tous étaient déjà au deuxième tour alliés. Et donc, le fait d'avoir un informateur ne veut pas dire nécessairement que nous allons avoir un gouvernement de coexistence avec les oppositions. Mais je veux pousser ma réflexion plus loin. La présence de l'opposition dans un gouvernement de la majorité ne profite ni à l'opposition ni à la majorité. Car ça ne profite d'abord pas à l'opposition parce qu'elle serait jugée sur base de l'action de la majorité, pour laquelle elle n'est pas l'instigateur ni le concepteur. Nous serons que les petits appendices dans ce gouvernement. Et ce n'est pas non plus au profit de la majorité parce que nous risquons d'avoir des ministres qui vont venir torpiller notre action en disant qu'ils sont avec nous, au moins ils ne sont pas avec nous. Et donc ça ne profite pas non plus à la nation congolaise. Parce que sinon, il n'y a plus d'alternance politique. On va juger qui en 2016, et bientôt d'ailleurs aux élections provinciales. On jugera qui sur base de quelle action. Si nous devons nous mettre tous ensemble pour diriger ensemble, comme l'a dit le président de l'Azado, nous sommes en démocratie ou nous ne sommes pas en démocratie. Si on doit être en démocratie, il faut faire des choix. C'est-à-dire, ceux qui ont gagné, gouvernent. Ceux qui n'ont pas gagné, attendent l'alternance politique. Sinon, nous restons dans ces mythes congolais qui veut que tout le monde reste au mangeoir, comme dirait un collègue d'Élise Sanga. Nous ne pouvons pas concevoir la politique de la nation comme étant une affaire de poste. Il faut qu'on enlève ça de la tête des Congolais parce que ça froisse les électeurs. Ils nous ont élus pour que nous nous préoccupions de leurs problèmes de chaque jour, que nous nous préoccupions des problèmes de la sécurité. Dans toute l'étendue de la République, et qui est particulièrement à l'est du pays, dans mon retour natal, où on continue à tuer jusqu'à aujourd'hui, que nous nous préoccupons de savoir comment les citoyens congolais vont pouvoir manger à sa faim, que les revenus du Congolais augmentent, et bien évidemment les revenus de l'État qui doivent précéder pour qu'on puisse payer davantage convenablement les Congolais. Donc j'estime que c'est un discours, à mon avis, déplacé de vouloir tout le temps que nous puissions être ensemble au moment où nous sommes battus pour que les uns soient au pouvoir, d'autres dans l'opposition.
Professeur Pierre Virgence, vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale pour vous.
Ça semble à partir de Bounia, en Italie, province orientale. Le peuple n'a besoin que d'un gouvernement qui s'occupera de son défi quotidien et de l'intérêt général. C'est même celui de la patrie politique. Le mot pour appeler ce gouvernement importe ce.
Professeur, je vous ai précédemment posé une question similaire. La RDC a connu une expérience de gouvernement d'union nationale, un peu avec des types un peu SCAT, de coalition en 2006. Mais professeur, comment faire comprendre aux Congolais, comment la classe politique peut faire comprendre aux Congolais le type de gouvernement qui lui convient?
Je pense que ce n'est pas maintenant que le gouvernement doit convaincre les Congolais qu'il fait le bon choix. Car pour le moment, les élus au Parlement ont un mandat qui dure 5 ans, et ce sera dans 5 ans à eux de rendre compte aux électeurs du fait qu'ils ont fait le bon choix. Il y a pour le moment deux, semble-t-il, éléments importants dans le débat qui vient d'être mis sur la table et qu'il faut bien rappeler. La notion d'informateur n'est pas une notion exceptionnelle. C'est prévu dans la constitution congolaise. Donc, à part le cas où il y a un parti qui a une majorité évidente, il faut chercher à créer une coalition qui obtient 250, enfin plus de 250 sièges à l'Assemblée. Et donc, la notion de l'informateur, le travail de l'informateur consiste à formaliser l'accord entre les partis de cette coalition. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a une coalition virtuelle de 340 parlementaires. Le travail de l'informateur consiste justement à faire passer cette majorité virtuelle au stade de majorité contractuelle. Donc on fait un accord de gouvernement et puis de majorité réelle, on va au Parlement pour se faire approuver. Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément, effectivement, c'est de savoir qu'il y a déjà eu au Congo des tentatives, alors ça c'est intéressant, des tentatives de gouvernement d'union nationale. Parce que souvenez-vous, que quand on a discuté à Saint-City, si je ne me trompe, de la formule du gouvernement 1+4, il était clair pour à peu près tout le monde que le vice-président chargé de représenter l'opposition politique devait être le président de l'UDPS. Et c'est celui-ci qui a refusé cette place parce qu'il voulait en réalité la présidence. Et donc tout le monde sait au Congo que ce gouvernement de transition de 2003 n'a pas été un gouvernement d'union nationale parce que l'UDPS voulait la place centrale et non pas une place secondaire. De la même façon, pourrait-on dire, en 2006, il n'y a pas eu de gouvernement d'union nationale, il y a eu un gouvernement de coalition, mais ce n'était pas un gouvernement d'union nationale, il y avait des partis dans l'opposition, qui ont fait leur travail d'opposition, et qui ont dénoncé ce qu'ils estimaient être les erreurs du gouvernement, et qui ont fait savoir à l'opinion publique quand ils n'étaient pas d'accord. Et on a vu, à cette occasion-là d'ailleurs, que la liberté d'informer était globalement de mise en République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement de coalition est en fait, le gouvernement d'union nationale, pardon, est un gouvernement très rare, et en fait, il faut vraiment que tout le monde se dise qu'il y a un vrai danger pour qu'on le mette en place. Merci. Et ça n'a pas été le cas ni en 2003 ni en 2004.
Merci, professeur. Honorable Sambo Colombé, il y a le professeur Victor Okombe de Lubumbashi Katanga qui dit, en passant, je signale qu'il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. L'idée d'un gouvernement d'union nationale est un recul, réel recul, et ne répond pas, à mon avis, à aucun principe démocratique. La démocratie veut que le peuple choisisse ses dirigeants, mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'en démocratie, ce soit des dirigeants et transparents, crédibles et sans irrégularité, clairs comme ce que nous venons de voir chez nous, devant cette situation connu de tous, même si beaucoup font semblant d'ignorer la vérité, je propose à mon avis que ceux qui sont déclarés élus puissent gouverner le pays. Point très professeur.
Non, non, là, notre auditeur s'est contredit. On ne peut pas à la fois reconnaître qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu fraude, et en même temps accepter que le fraudeur gouverne comme s'il devait en être. Voilà pourquoi on apprécie parfois la démarche du chef de l'État de consulter toutes les forces politiques en vue d'identifier une coalition. Et l'impression que mon ami Pierre Dupuy donne, c'est comme si l'opposition courait derrière un gouvernement. Ah non, si le chef de l'État a désigné un informateur et a étendu les consultations, d'être informateur au fond de l'opposition. Ce n'était pas la demande de l'opposition, n'est-ce pas? Et si c'est pour faire partie d'un gouvernement en paix, j'ai bien entendu que nous, on n'est pas prêts. Hein? Nous, on veut un dialogue pour mettre au point certains éléments qui n'ont pas pu trouver des solutions à l'issue du double scrutin de novembre. Donc, résoudre le problème de légitimité qui se pose aux yeux avec accusé dans le chef de l'institution présente à l'Église.
Alors, en guise de conclusion, professeur Bokolombe, jusqu'où pensez-vous, jusqu'où peut aller l'ouverture proposée par le chef de l'État?
Jusqu'où peut aller l'ouverture? D'abord, avant de parler de l'ouverture, il faut parler du dialogue autour de la question de la CEDU, autour de la question de la nature du gouvernement, puisqu'il ne suffit pas de parler d'ouverture. D'accord? Il y a bien d'autres éléments qu'il faut soulever et qu'il faut régler.
Honorable Ntekouye, en guise de conclusion, qu'est-ce que les auditeurs qui nous suivent peuvent retenir?
Les auditeurs qui nous suivent doivent retenir que la majorité a déjà commencé l'ouverture avant les dialogues réclamés par l'opposition, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons consigné dans le règlement intérieur que l'opposition doit occuper au moins 2 sièges proportionnellement à leur poids politique au niveau de l'Assemblée. Mais aussi, nous devons conclure que l'opposition doit laisser la majorité gérer le gouvernement, sauf s'il y a des perles rares qu'on chercherait dans l'opposition qu'on ne sait pas trouver au niveau de la majorité.
Là, vous perdez complètement la
porte. Savoir que si l'opposition avait gagné l'élection dans les mêmes conditions, est-ce qu'il serait comporté de la même manière que nous?
Professeur Pierre Virgence, en guise de conclusion, quelle est votre analyse?
Je crois que pour le moment, donc le travail de l'informateur consiste à mettre sur pied un gouvernement. Il a pour ce faire un mois. S'il ne parvient pas à le faire au bout d'un mois, le président pourra le renommer encore une fois pour un mois, et on espère que dans deux mois, la République démocratique du Congo aura un gouvernement qui aura sa majorité parlementaire.
Merci.
Et en tant que Belge, je peux dire aussi que j'espère que la République démocratique du Congo ira plus vite que la Belgique.
Merci, professeur. Merci, professeur. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour votre histoire. Vous, si vous avez aimé, retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 14h15, heure de Kinshasa. Au revoir. Thank you.